France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et l'on se rendra dès le début de ce journal à Mayotte où l'alerte rouge est sur le point d'être levée et ce même si les fortes pluies font encore craindre d'importantes inondations. On fera le point sur les difficiles, sinon impossibles tractations qui se poursuivent à Matignon à la veille de la déclaration de politique générale de François Bayrou. À suivre également la diplomatie des otages en Iran. On en parlera avec notre invité après qu'un ressortissant français condamné pour espionnage a lancé ce matin un appel pour accélérer sa libération. Nous serons par ailleurs à Los Angeles pour toujours encerclé par les flammes et puis on reviendra sur la vie et l'œuvre de celui qui avait révolutionné la communication publicitaire, Oliviero Toscani, le photographe et roi de la provoque, est décédé ce matin. Il était âgé de 82 ans. Encore meurtri par le passage dévastateur du cyclone Chido. Les Mahorais ont donc passé une seconde nuit confinés dans l'angoisse de voir leurs abris de fortune emportés par des rivières en crue. En cause, les torrents d'eau qui continuent de s'abattre après qu'une intense tempête tropicale s'est dangereusement rapprochée hier à une centaine de kilomètres de l'archipel, causant d'importantes inondations. À cela s'ajoutent des vents violents, mais aussi des vagues qui font craindre de possibles submersions, et le cauchemar n'est pas prêt de s'arrêter puisqu'à présent c'est un important phénomène de mousson habituel en cette saison qui devrait toucher le territoire ultramarin dans la journée. Notre envoyée spéciale Béatrice Duguay s'est rendue ce matin à Wangani sur les hauteurs de l'île où des torrents d'eau ont déferlé la veille dans les rues de la petite commune. Reportage.
Boulevard de l'Hôtel de Ville, lendemain d'intempéries, Inmla regarde les femmes s'affairer dans la petite épicerie du croisement.
Au début je croyais que c'était rien parce que mon père, il avait dit que c'était juste une tempête. Après, ça montait. J'ai dit, oh là là, c'est du n'importe quoi.
Parce que l'eau a débordé de la ravine toute proche et déferlé chez les riverains. Ce matin, séquence nettoyage, la boue a tout envahi, la maison, le commerce, avec de la marchandise perdue. Léa, 18 ans, aide sa grand-mère et ses tantes, la front en main.
Avec les barrages des arbres qui sont tombés après Chido, l'eau a commencé à s'accumuler là-bas. Puis après, en haut, là-bas aussi, vers le cimetière, l'eau a commencé à monter aussi. Ben, tout accumulé, ça a fait que l'eau a remonté et ça a pris toute la route, depuis la route du cimetière là-bas jusqu'à ici en bas.
On voit les traces, non ?
On voit les traces là-bas.
40 cm d'une eau boueuse et puissante dans la rue qui porte encore les stigmates, cartons mouillés, palmes arrachées, gravats, noix de coco.
Ça reste impressionnant, mais c'est la nature, on n'y fait rien.
Heureusement, le quartier est solidaire. Il espère ne pas avoir à ressortir les balais et les raclettes en fin de journée.
Un reportage à Mayotte de Béatrice Duguay. C'est dans ce contexte de crise que l'Assemblée doit entamer cet après-midi l'examen en commission du projet de loi d'urgence pour Mayotte. Un projet qui devrait être adopté sans grande difficulté dès lors que la très sensible question migratoire n'y sera pas abordée, remise à plus tard aux grandes dames d'ailleurs d'une partie des élus locaux et du Rassemblement national. Alors ce texte est en l'occurrence le tout premier présenté par le gouvernement du Premier ministre François Bayrou, lequel à la veille de sa déclaration de politique générale poursuit ses tractations dans l'espoir toujours de se concilier les faveurs de la gauche, comprenez d'éviter la censure, sans pour autant s'aliéner le soutien d'une partie du bloc central chez qui, Rosalie Lafarge, on ne peut pas dire que l'on déborde franchement d'enthousiasme.
Je ne sais pas où on va, confesse un député modem. Dans le mur, assure déjà un macroniste. C'est insoluble, soupire encore un élu de ce bloc central, quand un quatrième reconnaît tout simplement qu'il s'en fiche. Dans les troupes censées soutenir maintenant François Bayrou, une certaine usure se fait ressentir et les motifs d'inquiétude ne manquent pas. La composition du gouvernement en fait partie, pire que celui de Michel Barnier, selon un proche de l'actuel Premier ministre. Il ne correspond en rien aux attentes des Français, d'après un parlementaire du groupe présidentiel. Et ses débuts ne donnent pas franchement l'impression d'une pleine réussite, fait mise encore un élu centriste. Le chef d'équipe aussi a du mal à emmener les siens au modem. Certains regrettent de ne pas avoir été consultés par François Bayrou ou au moins informés dans les grandes lignes des volontés de leur patron. D'autres se font assez peu d'illusions sur ses capacités réelles à faire bouger les choses un an avant les municipales et deux a priori avant la prochaine présidentielle. La fiabilité attribuée à la gauche PS ou la droite LR, le poids du RN, celui de la France insoumise, les accords conclus dans le passé passé, pas toujours respecté. Voilà pour compléter la colonne moins d'un tableau pas très équilibré. Et s'y ajoute encore plus, après ces semaines en circonscription, le sentiment d'un désintérêt grandissant de la part des Français. Les gens ne sont même plus en colère, ils nous disent juste qu'on ne sert à rien et tout le monde est mis dans le même sac, se désole un soutien d'Emmanuel Macron, qui ne trouve, même en cherchant bien, appuie-t-il, vraiment aucune raison d'être optimiste.
À défaut d'être optimiste, eux ont choisi de faire monter la pression.
Oui, les principaux syndicats agricoles, particulièrement remontés en pleine élection professionnelle, étaient reçus ce matin à Matignon, bien décidés à obtenir de François Bayrou, jamais avare sur ses racines paysannes, qu'il mette en œuvre les engagements de l'État, à la fois budgétaires, fiscaux, législatifs, obtenus avant la dissolution. Et pour cela, ils ont même fixé une date butoir, le salon de l'agriculture qui aura lieu à partir du 22 février.
Comment améliorer l'efficacité des services de police et de gendarmerie?
La question est sensible et la Cour des comptes a choisi de mettre les pieds dans le plat hier en publiant un rapport qui pointe non seulement l'immobilisme du ministère de l'Intérieur depuis une dizaine d'années, mais aussi l'influence des syndicats de police sur la répartition territoriale des zones de compétence, alors même que les forces de gendarmerie dépendent de la même autorité publique depuis leur rattachement à la place Beauvau en 2009. Mathilde Bouquerel, bonjour.
Bonjour.
Alors, de manière générale, quand les policiers sont affectés aux moyennes et grosses villes, les gendarmes sont, eux, dévolus aux plus petites villes et aux campagnes, sauf que cette répartition datée et parfois incohérente est source de dysfonctionnement. Quelles sont, Mathilde, les préconisations des sages?
La première, c'est de transférer 76 circonscriptions de police en zone gendarmerie, notamment dans les petites villes. Parce que vous le disiez, la règle, c'est zone police dans les villes grandes et moyennes, gendarmerie dans les petites communes, mais il y a des exceptions. Selon la Cour des comptes, plus d'une circonscription sur 10 couvre une population de moins de 20 000 habitants, des zones qui ne sont pas adaptées à la police, selon la Cour. Ce qu'elle explique, en fait, c'est qu'une circonscription de police est adaptée pour une zone densément peuplée parce qu'elle compte forcément plus d'agents qu'une unité de gendarmerie. En effet, une circonscription de police fonctionne en autonomie. Elle doit traiter toutes les situations sur son territoire, hors urgence, comme les émeutes après la mort du jeune Naël, par exemple. Au contraire, une unité de gendarmerie fonctionne en effectif plus réduit. Elle traite les situations habituelles de son territoire, mais elle peut se référer à l'unité immédiatement supérieure à elle pour traiter une situation inhabituelle. L'objectif de la Cour, c'est de faire des économies, on le comprend.
Et la Cour souhaite également transférer, Mathilde, certaines zones de gendarmerie en zone police.
Oui, pour les petites communes rurales qui sont en fait en banlieue de grandes métropoles et où on retrouve donc, logiquement, les mêmes problèmes de délinquance que dans la ville voisine. Les sages évoquent aussi le cas des communes nouvelles, issues de la fusion de deux communes, qui ont choisi une compétence mixte, mi-police, mi-gendarmerie. Ils recommandent qu'elles fassent un choix entre les deux pour simplifier les procédures. Mais ces transferts entre zone police et gendarmerie sont bloqués depuis plus de 10 ans, selon la Cour, qui dénonce les réticences des élus locaux et le poids des syndicats de police.
Merci Mathilde Bouquerel. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, visé par une enquête préliminaire, l'ex-sénateur LR des Alpes-Maritimes, soupçonné de détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt par le parquet national financier, en cause les multiples casquettes qu'il occupait au Canet, cette commune des Alpes-Maritimes, fief de la famille Tabarot et dont sa sœur, toujours chef de la majorité municipale, l'avait choisi pour être son directeur de cabinet lorsqu'elle dirigeait la ville.
C'est un témoignage glaçant.
Ce matin, Olivier Grondeau, ce Français de 34 ans arrêté en Iran en 2022 et condamné à 5 ans de prison pour espionnage et complot contre la République islamique, a choisi de sortir de l'anonymat et de parler publiquement pour la première fois afin d'alerter sur son cas dans un document audio enregistré le mois dernier lors d'un appel téléphonique à ses proches. Il raconte d'abord sa détention arbitraire dans des conditions insupportables et son épuisement. Il clame son innocence et se dit aussi victime d'un chantage politique entre la France et l'Iran. Alors pourquoi ce témoignage maintenant et surtout malgré les risques encourus? Je vous propose d'écouter son ami et porte-parole de son comité de soutien, Tristan Beultiot, invité ce matin de nos confrères de France Inter.
Pour lui, c'est une grosse prise de risque, beaucoup de stress. Il avait très peur de revenir à l'isolement qu'il a très mal vécu en début d'incarcération. Il en est encore traumatisé. Mais le désespoir et sa santé déclinant chaque jour, il a pris sur lui de prendre cette décision de médiatiser son cas, à l'instar des autres otages et des autres familles d'otages. Pour moi, c'est l'été dernier où ça a basculé. L'été dernier, c'était très très dur, le moral et l'injustice qu'il subissait, parce qu'Olivier, il faut savoir, c'est quelqu'un qui a un grand sens de la justice. Et pour lui, c'était inconcevable que... Pour lui, c'était un malentendu. C'est complètement ridicule, le dossier est vide. Il était à son auberge de jeunesse et il s'est fait kidnapper au milieu de son quotidien. Il préparait un voyage pour ses parents, bien sûr. Il était inquiet des troubles à la capitale à l'époque. Et il s'apprêtait du coup à... Il se posait la question de partir du pays. La police ne lui a pas laissé le temps. Il s'est fait cueillir dans sa chambre. Il est en train de se raser.
Et pour continuer donc d'évoquer le cas de ce ressortissant français incarcéré dans les geôles iraniennes, invité à présent de la rédaction Clément Terme, chercheur au Centre de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Humaines et Sociales de l'Université Paul Valéry de Montpellier. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors précisons tout de suite que les otages français en Iran sont en réalité au nombre de trois. Olivier Grondot donc, mais aussi un couple, Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus depuis 2022, accusés eux aussi d'espionnage. Vendredi dernier, la France a convoqué l'ambassadeur d'Iran à Paris, dénonçant la situation, je cite, « insupportable des otages d'État français ». De quoi cette nouvelle terminologie est-elle le signe ?
Oui, cette terminologie date en fait de l'automne 2022, au moment où Cécile Kohler et Jacques Paris sont forcés à des confessions à la télévision iranienne. À ce moment-là, le Quai d'Orsay décide cette rupture sémantique et de nommer les prisonniers français en Iran et de les qualifier d'otages d'État.
Généralement, la politique préconisée dans le cas des otages est souvent celle de la discrétion. Quels peuvent être les bénéfices à rendre ces arrestations publiques ? Est-ce que, par exemple, la pression de l'opinion peut permettre d'accélérer le processus de libération ?
Alors oui, les diplomates professionnels privilégient les actions discrètes, les tractations en coulisses, puisque finalement la libération des trois otages dépendra des négociations entre les services de renseignement français et les services de renseignement iraniens. Par contre, l'intérêt pour la famille ou les comités de soutien de rendre public et de médiatiser leurs histoires et de faire de leurs questions une priorité politique en France et de faire pression par là même sur le Quai d'Orsay, mais surtout sur l'Élysée, le président de la République, le président Macron.
Le mois dernier, une journaliste italienne avait été arrêtée en Iran et trois semaines seulement auront suffi pour obtenir sa libération. Comment expliquer une telle efficacité ? Est-ce que la stratégie de Rome est différente de celle de Paris ?
Non, simplement être détenteur d'un passeport italien en Iran n'est pas la même chose qu'être détenteur d'un passeport français en Iran. Il s'agit dans les deux cas de discrimination en fonction de la nationalité, donc de détention arbitraire. Mais dans le cas italien, il y a une plus grande flexibilité dans la négociation. Et il y a aussi, si vous voulez, l'absence de statut au Conseil de sécurité. La France est membre permanent. Elle fait partie des négociations sur le nucléaire. Donc la question des détenus français est plus en lien avec des questions politiques globales. Et le contexte est également différent cette fois, puisque les trois détenus français ont été arrêtés entre mai et l'automne 2022. Donc c'était dans le contexte, dans le premier cas, des manifestations d'enseignants, et dans le second cas, celui d'Olivier, il y avait le mouvement Femme, Vie, Liberté qui se développait à travers l'Iran à ce moment-là. Et la France était accusée par les services de renseignement iraniens de fomenter, entre guillemets, les troubles dans une approche complotiste. Donc les cas français font plus partie d'une stratégie de guerre de l'information. C'est pourquoi la nouvelle que vous avez évoquée de la convocation de l'ambassadeur iranien à Paris n'a pas été évoquée par la presse iranienne qui pratique, en fait, à travers ces détentions arbitraires, une guerre de l'information.
Est-ce que ça veut dire qu'il existe des profils types d'otages ? Comment l'Iran choisit-elle ses cibles ?
Alors il y a la question de la nationalité, évidemment. Il y a le contexte. Par exemple, s'il y a une déclaration d'un des responsables de l'appareil de sécurité qui vise un État européen, qui est accusé de soutenir la révolte en Iran, par exemple, ce qui a été le cas de la France à l'automne 2022. S'ensuit toute une série d'arrestations de détenus, de citoyens, de touristes qui sont dans le pays. Mais il n'y a pas de profil type. On a vu des journalistes, on a vu des diplomates, on a vu des simples touristes au moment de Femmes dit Liberté. Donc il y a un effet d'opportunité. Et l'objectif politique poursuivi à travers la détention arbitraire peut également changer au cours de la détention.
Une dernière question. Il se trouve qu'aujourd'hui même doivent reprendre à Genève des discussions diplomatiques, sorte d'ultime tentative donc pour empêcher Téhéran de se doter de la bombe. Que peut-on espérer de ces négociations ?
Alors ces négociations ont lieu à la veille de l'arrivée au pouvoir de l'administration Trump et d'une probable restauration de la politique de pression maximale des États-Unis, avec un accroissement des sanctions. Donc les Européens se proposent simplement d'exister en tant que plateforme diplomatique pour poursuivre les échanges. Mais toute la difficulté de ces négociations nucléaires, pour la France notamment, est de compartimenter les dossiers, c'est-à-dire ne pas mélanger le dossier des otages avec le dossier nucléaire, avec le dossier de la politique régionale de l'Iran. C'est le défi auquel est confrontée la diplomatie française face à la polycrise iranienne.
C'est bien noté. Merci Clément Terme, chercheur, je le rappelle, au Centre de recherche interdisciplinaire en sciences humaines et sociales de l'Université Paul Valéry de Montpellier d'avoir répondu à notre invitation. Merci également Aline Biette pour la préparation.
12h45 sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
C'est un combat acharné que le retour des vents violents dans les toutes prochaines heures risque de compliquer davantage encore après une courte accalmie malgré les efforts de milliers de soldats du feu à pied d'œuvre. Los Angeles reste assiégé par les flammes et continue par ailleurs de compter ses morts, 24 au total. La dévastation est sans précédent pour la deuxième ville des États-Unis. Au milieu de ce chaos, de plus en plus de voix crient à présent leur frustration et surtout leur colère, que ce soit sur les défaillances dans l'approvisionnement en eau et les bouches d'incendie à sec, mais aussi le manque d'informations pour les personnes évacuées ou à l'inverse, les alertes erronées ordonnant à des milliers d'habitants de la ville de fuir leur domicile. Sandrine, et toi, Ondeg, a rencontré un jeune homme, Robert, d'une trentaine d'années, qui lui a refusé justement d'évacuer pour sauver ses biens.
Dans une rue ombragée d'Altadena, Robert déblaie tranquillement devant sa maison intacte en racontant son face-à-face avec le feu mercredi dernier.
J'ai eu de la chance d'avoir une petite arrivée d'eau. C'est ce qui a tout stoppé. J'ai refusé de partir pour sauver ma maison. C'est fait. Maintenant, je nettoie et je monte la garde jusqu'à ce que tout le monde rentre.
Juste en face, voiture, maison, restaurant, tout est calciné. Un incendie d'une rapidité et d'une intensité inédite.
Regardez les montagnes derrière vous. On a d'abord vu une petite lueur et elle a grossi encore et encore et encore. Au lieu d'aller vers l'ouest, elle est descendue vers nous. Toutes ces maisons ont brûlé en 20 minutes.
Il tient à préciser.
Impossible d'avoir de l'eau de la borne d'incendie. Oui, celle juste en face. Il n'y en avait pas. J'ai vu les pompiers essayer de remplir leur citerne, abandonner et passer à la suivante.
Autre problème, selon lui,
la mairie a baissé le budget des pompiers. Voilà le résultat.
Ce qui l'inquiète à long terme, ce sont les feux de forêt toujours plus violents en Californie et à court terme, l'air vicié à cause des fumées toxiques qu'il respire en ce moment.
Un reportage signé Sandrine et toi, Andegue. Avec près de 74% des voix au second tour de l'élection présidentielle, le candidat sortant, Zoran Milanovic, un socialiste aux accents populistes, a été réélu haut la main hier en Croatie, infligeant ainsi un sérieux camouflet au parti de la droite conservatrice qui dirige, lui, le gouvernement.
Figure de la culture pop, il s'était imposé comme un nom incontournable de la photographie.
Rendu célèbre pour ses campagnes de publicité volontairement provocatrice et controversée, notamment pour la marque italienne de vêtements Benetton. Oliviero Toscani est décédé ce matin des suites d'une maladie rare et incurable. Il était âgé de 82 ans. C'est une correspondance à Rome signée Bruno Duic.
Oliviero Toscani réalise son premier scoop à 14 ans. Il accompagne son père, photographe, lors du transfert du corps de Mussolini dans sa commune natale. Sa photo de la veuve du Duce fait la une. On est en 1957. Mais c'est plus de 30 ans après, avec la publicité que sa réputation devient mondiale. Nicolas Ballario est un collaborateur historique d'Oliviero Toscani.
Il a été le premier à comprendre que la publicité pouvait être un moyen de communication pour parler des problèmes du monde.
Des baisers sur la bouche entre une bonne sœur et un curé, un juif et un arabe, des corps de toutes les couleurs, une chaise électrique noire et son câble blanc, les lettres archivées violettes sur une paire de fesses, slogan toujours le même, United Colors of Benetton.
Beaucoup lui reprochaient d'utiliser des tragédies pour vendre des vêtements, mais il a fait le contraire. Il a utilisé l'argent de l'industrie de la mode pour parler de ces sujets.
Toscani photographie nu un mannequin anorexique. Il signe l'affiche du film Amen sur les ambiguïtés du pape Pie XII pendant la guerre.
La croix catholique devenait une croix gammée. Il avait mis l'Église de France très en colère.
Les stars, en revanche, l'aimaient bien. De John Lennon à Monica Bellucci, des dizaines sont passées devant son objectif.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par le retour du soleil sur la majeure partie du territoire. En revanche, les températures restent fraîches, comprises entre 1 et 11 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.